enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous proposerai de faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Jésus est en train de donner plusieurs paraboles suite à une question que les disciples lui avaient posée sur le royaume des cieux. Quand viendra le royaume des cieux et comment que cela sera? Et Jésus répond par une série de paraboles et c'est l'une de ces paraboles que nous allons prendre, la parabole des talents, verset 14 de Matthieu chapitre 25. On va y aller, verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Le thème de mon message sera, eh bien, faire valoir ce que Dieu m'a donné. Amen. Cette parabole nous présente des principes importants à appliquer dans la gestion de notre vie et de nos talents. Pendant longtemps, moi, ce texte me posait un problème. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouvais que, eh bien, le maître, l'attitude du maître me semblait dure et impitoyable. J'avais du mal à accepter le sort de ce pauvre serviteur et je ne comprenais pas la gravité de son geste. Mais avec le temps, j'ai compris que le point central de ce texte n'est pas l'attitude du maître, mais c'est celle du serviteur que nous devons retenir. Et c'est de cette attitude que nous avons des leçons à tirer. Jésus nous explique au travers de cette parabole que la façon d'agir du serviteur est mauvaise pour sa vie et il en a subi les conséquences. Il savait dès le début que son maître était exigeant. J'aimerais vous dire que notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur est exigeant par rapport à nous-mêmes. Il est exigeant dans le fait qu'il nous a donné des préceptes, des commandements et il désire vraiment que nous les mettions en pratique et que nous marchions droit. Amen. Il n'a qu'un seul désir, c'est de nous bénir, de nous faire du bien. Mais il désire aussi que nous soyons sanctifiés, que nous marchions dans la droiture. Alors qu'est-ce qu'un talent? Dans le texte des talents, eh bien, dans ce texte, nous voyons qu'on parle d'argent, de pièces de monnaie. Mais il peut également s'agir de nos talents naturels, des dons que nous avons reçus de la part de notre Créateur. Selon le dictionnaire Larousse, avoir du talent, c'est une aptitude, une capacité, une disposition, un don, une facilité, une bonne faculté, avoir du génie, un instinct, des penchants, des prédispositions, des qualités, des vocations. Tout un programme, hein. Dieu nous a donné des talents à tous. Est-ce que vous le croyez? Nous avons tous reçu des talents. Même si certains d'entre nous en doutent, nous avons tous reçu des talents. De cette histoire, nous pouvons déjà tirer un principe très important. Ce n'est pas en enterrant nos ressources et les talents que nous avons reçus de la part de notre Dieu que nous pouvons améliorer notre condition de vie ou celle des autres, mais plutôt en les développant et en les faisant fructifier. On peut dire amen à cela ? Dieu nous invite à faire fructifier les dons, les talents qu'il nous a donnés. Pourquoi ? Pour notre bien-être, pour que nous puissions progresser nous-mêmes dans la vie quotidienne, mais aussi faire progresser les autres. Observons la décision du maître. Il décide de multiplier les possessions de celui qui avait fait fructifier ses talents. Par conséquent, lui-même et ceux de sa famille, ceux qui l'entouraient, avaient plus, parce que Dieu, eh bien, avait multiplié et cet homme avait fait fructifier les talents qu'il avait reçus. Cette parabole nous montre également que nous ne partons pas tous égaux sur la ligne de départ. C'est important aussi à comprendre. Les serviteurs n'ont pas reçu le même nombre de talents, vous l'avez lu comme moi. Nous ne partons pas tous égaux sur la ligne de départ. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter cela et nous pouvons le voir de façon très naturelle. Il y a des gens qui ont des prédispositions pour être des intellectuels. Et d'autres comme moi, on est des intellectuels. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux. Et nous devons simplement accepter ce fait, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et il a un plan pour chacun de nous, un plan bien précis pour son royaume. Et nous devons accepter notre place là où Dieu nous veut. Remarquez aussi que le maître loue autant celui qui a fait fructifier les 5 talents que celui qui a fait fructifier les 2 talents. Les louanges du maître sont les mêmes. Ce que le maître est en train de considérer, c'est leur fidélité et rien d'autre. Et Dieu considère notre fidélité dans la marche avec lui. Dieu considère notre fidélité. Il observe comment nous fonctionnons et il observe notre fidélité. Et il aime celui qui est fidèle. Il aime l'homme qui marche dans la fidélité. Alors, comment obtenir une meilleure satisfaction de la vie et de nous-mêmes? On aime bien être satisfait de soi-même. Moi, je crois que c'est juste d'être satisfait de ce qu'on a fait. Lorsqu'on a passé une bonne journée, lorsqu'on a avancé, lorsqu'on a progressé dans ce qu'on avait à faire, on est heureux, on est content, on est satisfait. D'autant plus quand on travaille pour le Seigneur. Pour développer pleinement le potentiel que Dieu nous a donné, nous devons d'abord découvrir nos talents. Car beaucoup de gens ne connaissent pas leurs talents. On ne peut pas développer ce qu'on ne connaît pas. Nous avons besoin que le Seigneur nous révèle ce que nous sommes et ce qu'il veut que nous devenions. Peu de gens sont conscients de leurs réelles capacités. Et souvent, nous découvrons chez les autres des talents cachés dont ils ne se doutent même pas. Alors notre devoir, c'est de leur dire, parce que certaines personnes n'osent pas se mettre en avant, mais nous devons être des hommes et des femmes capables d'encourager notre frère, notre sœur, lorsqu'il fait quelque chose qui peut vous sembler être bénéfique pour les autres ou pour le royaume du Seigneur, pour l'Église. Nous devons être des hommes et des femmes capables d'encourager afin que le doute de ceux qui ont peur s'estompe. Découvrir. Premièrement, regardons avec attention à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Le problème n'est pas de ne pas avoir, mais de savoir ce que l'on a. Observons-nous et faisons un inventaire de ce que nous avons, ce que nous possédons de la part de Dieu. Quels sont mes goûts, quelles sont mes forces, quels sont mes centres d'intérêt, etc. Je crois qu'il est impossible de n'avoir aucun talent. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne crois pas que c'est possible. Pourtant, il y a des gens qui disent « moi, je ne peux rien faire ». N'écoutez plus les personnes qui vous disent que vous êtes des incapables, des bons à rien. Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges. C'est faux. Si on a pu vous dire ça dans votre enfance, ne le croyez pas, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas des incapables. Parce que Dieu vous a donné un talent. Parce qu'il a besoin de vous. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a créés et parce qu'il nous a voulu et parce que nous avons un rôle à jouer là où il nous veut. Deuxièmement, ne regardez pas à ce que les autres ont. Beaucoup de gens tombent dans le piège de la comparaison et ils regardent aux autres. et convoitent leurs qualités, se disant que s'ils avaient les capacités de l'autre, leur vie serait bien différente. Ils feraient peut-être même mieux que les autres s'ils avaient les mêmes talents. Ah, si je savais peindre comme un tel, moi je ferais des expositions pour que l'on voie et que ce soit un témoignage. Le problème, c'est que je ne sais pas peindre, alors je ne fais rien. Parce que je n'ai pas reçu ce don, mais Dieu m'en a donné d'autres, et je ne suis pas jaloux du don qu'un tel ou une telle a reçu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas satisfaits du don que nous avons. Troisièmement, ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Les gens se disent que s'ils avaient ceci ou cela, ils réussiraient. C'est faux. Certaines personnes regardent à ce qu'ils n'ont pas et ils ne regardent pas à ce qu'ils ont. On n'est pas satisfait de ce qu'on a, on aimerait autre chose. Nous devons développer nos talents. Beaucoup de gens ont le don de la musique, mais peu deviennent des vrais musiciens. Beaucoup de gens ont une belle voix et chantent, mais en comparaison, il y en a très peu qui en font leur métier et qui chantent vraiment. Je me souviens quand j'étais petit à Noël un jour, avec mon frère, on avait reçu tous les deux un saxophone en plastique. On devait avoir 8-10 ans à cette époque. Et puis, moi, j'ai jamais rien pu sortir de ce saxophone en plastique. Mais mon frère écoutait des morceaux de musique à la radio, des chansons qu'il aimait bien. Et quelques heures après, il se mettait à les jouer sur son saxophone en plastique. C'était vraiment étonnant. C'était extraordinaire. Quand on en discute ensemble, je lui rappelle cela. Pourtant, mon frère n'est jamais devenu musicien. Le développement naît de la volonté de chaque personne. Il naît également de la passion. Je suis sûr que si mon frère avait vraiment voulu faire de la musique, il aurait eu des facilités de le faire. S'il était tombé passionnément amoureux de la musique, il aurait réussi dans ce domaine-là, de la musique. Mais il n'en a pas fait sa passion. Il n'en a pas fait sa priorité. Il n'a pas développé la volonté de réussir dans ce domaine-là. Un homme un jour rentre dans une grande ville et voit un immense chantier qui avait commencé et il voit là des tailleurs de pierre qui sont en train de travailler. Alors il demande à l'un des tailleurs de pierre, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors le tailleur de pierre se retourne et dit « Tu ne vois pas, non ? Je suis en train de tailler une pierre. » Il demande au second « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et le second lui répond « Eh bien, moi, je travaille pour nourrir ma famille. » Et puis il demande au troisième, « Mais vous, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit, « Moi, je suis en train de construire le plus beau bâtiment de la ville. » Vous voyez la différence ? Les trois travaillaient exactement au même endroit. Quel est le sens de ce que je fais ? Quel est mon horizon ? Et mon horizon est-il limité à faire vivre ma famille ou s'inscrit-il dans le plan de Dieu ? Est-ce que je crois que là où Dieu m'a placé, c'est sa volonté. Est-ce que j'en suis sûr? Ou est-ce que je fais les choses par habitude, simplement? Je vais au travail parce que, je dois nourrir ma famille. Un jour, j'ai été interpellé par le Seigneur. Parce que j'étais en rébellion avec lui. Parce que je faisais un travail qui ne me plaisait absolument pas. Je montais toute la journée des portes avec un gros marteau. J'enfonçais des goupilles toute la journée. Et c'était pénible et dur. Et je regimbais contre Dieu. Je disais, c'est ça la bénédiction de Dieu? Et Dieu m'a interpellé. Il m'a simplement dit, « Mais comment veux-tu que je t'utilise à faire des choses pour moi si tu n'es pas capable de faire comme il faut les petites choses qu'on te demande ?» Croyez-moi, mes amis, je suis reparti au travail avec un nouvel état d'esprit. Et ça a mis des années avant que ma situation change. Mais Dieu m'avait interpellé. Et alors je savais que Dieu avait un plan pour moi. Je savais que dans mon lieu de travail, si j'étais en train de faire ce que je faisais, c'est que Dieu avait un plan et je l'ai vu bien après le plan de Dieu. Je l'ai compris bien après, je ne l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris par la suite. Dieu voit les choses de manière différente que nous les voyons avec nos yeux humains. Dieu nous voit avec des yeux spirituels et il veut nous emmener dans des dimensions que nous ne soupçonnons même pas. Alors voici 4 conseils pour développer nos talents. Premièrement, il faut réaliser notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu m'a donné, je dois le faire fructifier. Personne ne peut le faire à ma place. C'est moi qui en suis responsable. On attend parfois sur les autres comme si une source extérieure était responsable de nous faire découvrir ou de découvrir nos capacités. Et ce n'est pas juste, c'est à moi de les faire fructifier. Deuxièmement, nous devons repousser les obstacles. Dans la parabole que nous avons lue ensemble, il y avait trois obstacles pour cet homme. Le premier obstacle, c'était la peur. Il a dit « J'avais peur de toi, maître, parce que je savais que tu étais sévère. » Et le serviteur qui n'a pas fait fructifier son talent, il avoue qu'il a peur et qu'il est allé le cacher. Parfois, nous avons peur que l'on découvre que nous ne sommes pas capables de faire certaines choses. Alors, on n'essaye même pas. Et c'est un cercle vicieux. Si on n'essaye pas de faire les choses, on ne découvrira pas si on est capable ou non de les faire. Cet obstacle de la peur, nous devons le bannir de notre vie. Ne nous laissons pas prendre par la peur. Repoussons cet obstacle. Le deuxième obstacle qu'avait rencontré cet homme, c'était la paresse. Si on ne bouge pas, rien ne se fera. Le maître reproche justement au serviteur sa paresse. Et il nous faut passer à l'action. Les choses ne se feront pas toutes seules. Il faut que nous nous mettions en marche, en route. Et puis ensuite, le troisième obstacle, c'était le manque de vision. Nous sommes souvent limités par notre manque de vision, ou plus encore par une fausse perception des choses. Dans notre parabole, le troisième serviteur voit son maître comme un homme dur, tandis que les deux autres ne font absolument pas allusion à la dureté de leur patron. Alors nous constatons que le troisième serviteur s'est trompé et que sa perception des choses était fausse. En réalité, son maître était juste. Son maître l'avait embauché parce qu'il espérait qu'il fasse fructifier les talents qu'il lui avait donnés. Et lorsqu'on travaille pour un patron, c'est exactement la même chose. Si on travaille pour quelqu'un, c'est parce qu'il espère qu'on lui rapporte quelque chose, n'est-ce pas? Et en retour, nous en recevons une partie. Troisièmement, il nous faut nous fixer des priorités. Qu'a fait le serviteur après avoir caché son talent? Que lui avait demandé le maître? Quelle était la responsabilité et la priorité du serviteur? Je vous laisse répondre à ces questions, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, nous ne nous fixons pas les bonnes priorités. Souvent, on a du mal à se fixer les bonnes priorités, celles qu'il faut. Et je crois qu'il nous faut nous poser des questions simples dans la vie, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment utile pour les autres, ce que je suis en train de faire? Je crois que Dieu nous invite à nous remettre en question sans arrêt, parce que nous en avons besoin. Le Seigneur, dans sa parole, nous invite à racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 15, on peut prendre ensemble ce passage. Ce verset me semble important, 15 et 16. « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Amen. Dieu nous met en garde sur les temps que nous sommes en train de vivre, et surtout, il nous invite à racheter le temps. Non pas le temps chronos, le temps qui passe, mais le temps kairos, c'est-à-dire le temps qui nous est déterminé, le temps qui nous est délimité, qui délimite notre vie, nos actions. Il y a un temps pour toute chose, dira l'Ecclésiaste. C'est pareil pour nous. Nous devons apprendre à racheter le temps. Nous avons ce temps déterminé par notre Dieu. Ne le gaspillons pas inutilement. Il est précieux. Souvenons-nous que notre avenir éternel dépend du temps qui nous est imparti. Je répète cela, notre avenir éternel, nous en sommes, c'est le temps. Souvenons-nous que notre avenir éternel dépend du temps que nous avons reçu. Amen. Quatrièmement, nous devons saisir les opportunités. Le serviteur de faire valoir ce que le maître lui a donné. Pourtant, il manque cette occasion parce qu'il ne la saisit pas, tout simplement. Elle était là, il avait reçu le talent, il savait qu'il fallait faire quelque chose avec. Il n'a pas saisi l'occasion. Il a laissé échapper l'occasion. Et souvent dans notre vie, cela nous arrive. Et lorsqu'on s'est aperçu qu'on n'a pas saisi l'occasion, nous avons une solution, c'est de demander pardon à notre Seigneur. de nous humilier et de lui demander, Seigneur, redonne-moi une occasion. Je veux plus me tromper. Je veux vraiment saisir l'occasion d'aller vers mon ami, vers mon prochain, qui est dans la souffrance, il a besoin de toi. Et j'ai loupé l'occasion de lui parler. J'ai loupé l'occasion de faire ceci, de faire cela. Je crois que le Seigneur est bon et il nous pardonne lorsque nous n'avons pas saisi l'occasion. Dieu va également nous équiper des capacités dont il a besoin. Est-ce que vous croyez cela ? Peut-être aujourd'hui, vous ne soupçonnez pas ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Vous allez peut-être être surpris de ce qu'il va faire un jour dans votre vie. Comme moi-même, j'ai été surpris de ce qu'il a fait dans ma vie, mais je crois qu'il a encore des choses en réserve pour moi. J'étais surpris un jour en lisant ce texte dans Exode, chapitre 35, verset 30, où il nous est parlé des travaux qui étaient engagés pour la construction de la tente. Et dans ce passage, Exode 35, verset 30, Dieu parle à Moïse et Moïse ensuite retranscrit ce que l'Éternel lui a dit. Et là, nous lisons, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïssimac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. » Amen. C'est Dieu qui avait donné ce pouvoir à ces hommes. Et notez bien dans les versets que nous avons lus que la connaissance et les dons remarquables dont étaient revêtus ces hommes, Dieu voulait qu'ils les transmettent à d'autres. Et il leur a donné le don d'enseigner. Mon frère, ma sœur, peut-être dans ta vie tu as un don. Eh bien Dieu désire que tu puisses le transmettre ton don. Il désire que tu puisses apprendre à l'autre à mettre ce don en évidence et en pratique. Pour pouvoir aider ton prochain, mais aussi afin qu'il serve à l'Église, à son royaume. Le peuple d'Israël était tellement réjoui de voir ce qui se faisait à cette époque-là. Vous pourrez le lire chez vous dans Exode chapitre 36. Le peuple voyait que toutes ces belles choses se faire au travers de ces hommes qui avaient reçu ce don de Dieu, ce don extraordinaire de savoir travailler de leurs mains de manière fantastique, aussi bien le tissu que le bois, que les pierres, etc. Eh bien, le peuple était tellement heureux de voir ça que tous les jours, ils amenaient des matériaux, ils faisaient des dons en argent, en or, en tout ce que vous voulez, au point où Moïse a dû dire, maintenant, arrêtez, stop, ça suffit, on ne sait plus quoi faire avec. Ça ne nous est jamais arrivé, ça encore. Hein. Moi, je crois, frères et sœurs, que lorsque l'Église commence à voir, que avec force, avec puissance, il se passe des choses, on commence à se mettre en action et que le peuple commence à travailler, alors on a envie encore davantage d'aider, de soutenir ce qui se fait. Nous devons mettre nos talents en pratique et nous devons avancer. Le maître de la moisson nous rappelle que la moisson est blanche et qu'il y a peu d'ouvriers. Vous savez que Dieu a besoin de chacun de nous, du plus jeune au plus ancien. Nous avons tous une utilité dans la main de Dieu. Nous avons tous un talent caché, nous avons tous quelque chose à faire pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Qui que nous soyons. En conclusion, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une mésange un jour qui s'adresse à une colombe. Et je vais vous lire ce qu'elle lui raconte là. Hein. La mésange arrive là, près de la colombe, elle se pose à côté d'elle et elle lui dit, « Dis-moi, colombe, ça pèse combien un flocon de neige ?» Et la colombe de répondre, « ça pèse pas un flocon de neige. Ça pèse pas, ça pèse rien. Moins que rien même. Mais attends, colombe, je vais te raconter ce que j'ai vu l'autre jour. J'étais sur une branche quand il a commencé à neiger. Une petite neige tranquille, sans bruit, sans tempête, sans vent. Comme j'avais rien d'autre à faire, je me suis mis à compter les flocons qui tombaient sur ma branche. » J'en ai compté 3,751,952. Et quand le 3,751,953e flocon est tombé sur la branche, même si ça pèse pas, même si c'est moins que rien, eh bien figure-toi que ma branche a cassé. » Alors la colombe, avec son aile gauche, se mit à se gratter la tête et à réfléchir. Elle dit, peut-être ne manque-t-il finalement que le geste d'une seule personne pour que bien des choses changent et pour que beaucoup de gens vivent mieux. Certains diront peut-être, si je réponds à l'un ou l'autre appel, ça ne pèsera pas, ce n'est rien. Je ne suis pas assez fort, pas assez doué, je n'ai pas suffisamment d'argent, ce sera moins que rien. Souvenez-vous du flocon de neige, le dernier flocon, celui qui a fait changer les choses. Il ne pesait rien, pas plus que les autres. Il semblait inutile, perdu dans la masse. Et pourtant, la branche a cassé quand il est tombé. Je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de petits talents, de petits dons, ni de petites actions. Il y a seulement des engagements vécus avec le cœur, avec l'amour et la passion pour celles et ceux qui ont vraiment besoin de nous. Et je me réjouis de voir, depuis un certain temps, eh bien, un dynamisme nouveau dans l'Église. Je me réjouis de voir, en l'espace de quelques temps, eh bien, avec quelques frères, quelques-uns, quelques sœurs aussi qui se sont mobilisés, eh bien, en quelques jours, nous avons pu envoyer un conteneur en Afrique. Et ça, c'est encourageant. Dernièrement encore, j'ai eu un appel téléphonique d'Israël. On nous demandait des lits d'hôpitaux. Là encore, toute une équipe de frères eh bien, se sont mis au travail, avec un travail colossal à faire. En quelques jours, eh bien, le travail a été fait. Parce que les forces se sont unies les unes aux autres. Les idées aussi se sont unies parce qu'il fallait avoir des idées pour eh bien, organiser tout cela. Et les choses, les idées et les forces, les unes dans les autres, ont permis eh bien, un dynamisme extraordinaire qui a fait que eh bien, les choses ont pu se faire. Moi, je bénis le Seigneur de voir ces choses et je crois que nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau. L'Église, Dieu veut la mobiliser parce qu'il y a tant d'âmes qui se perdent, tant d'âmes qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime, tant d'âmes qui ont besoin de se sentir aimées, de se sentir valorisées, des âmes qui ont besoin de sentir, mais oui, la petite chose que je peux faire, mais je peux la mettre en pratique pour mon Dieu. Dieu veut valoriser nos talents, il veut, c'est un ordre qu'il nous le donne. Les conséquences, nous les avons lues ensemble, sont graves. La Bible nous indique que, dans les premiers versets de cette parabole, la Bible nous indique que eh bien, chacun a reçu un talent selon sa capacité, au verset 15. Chacun a reçu selon sa capacité. Ce qui est terrible, c'est de voir la fin de celui qui n'a pas fait fructifier son talent. La faute, ce n'est pas la faute du maître, c'est celui qui a reçu le talent. Mes amis, je voudrais simplement nous encourager ensemble à nous mettre au travail, avec les dons, avec les talents, avec tout ce que Dieu nous a donné. Certains, ça sera de manière artistique, d'autres, ça sera avec leur intelligence, d'autres, ça sera avec leur argent, d'autres, ça sera avec d'autres choses. Mais Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il veut faire avancer son œuvre. Et je crois que nous sommes vraiment devant une ère nouvelle où Dieu veut sanctifier son peuple, purifier son peuple. Son peuple, trop souvent, est laxiste et perd son temps devant des choses inutiles, à faire des choses inutiles. Il y a tellement à faire dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous apprend ce soir que si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, il nous faut être participatif, il faut vouloir, il faut être passionné pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes passionné pour le royaume de Dieu ? Vous vous réjouissez un jour de faire la fête avec le Seigneur dans le ciel ? Vous vous réjouissez de la belle maison que le Seigneur nous a préparée ? Je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir richement dans les temps à venir. Et simplement, je voudrais que nous puissions être encouragés par ce que nous voyons. Et je crois que le Seigneur va nous entraîner plus loin. Bientôt, une œuvre va démarrer, j'en suis sûr, en Serbie. On a des bien-aimés qui vont partir là-bas. Et ils vont démarrer une œuvre là-bas, dans leur maison. Et ils vont avoir besoin de nous. Ils vont avoir besoin de nos prières. Ils vont avoir besoin de nos bras. Ils vont avoir besoin de nos efforts concrets. Sommes-nous prêts à les aider ? Amen. Moi, je me réjouis. Le Seigneur, un jour, a parlé ici, dans ce lieu. Et il a dit qu'il enverra des gens parmi nous, partout dans le monde. Au départ, ça pouvait paraître utopique comme parole, hein. Mais plus le temps passe, plus nous la voyons se réaliser. Amen. Et c'est une joie dans notre cœur, une joie de pouvoir le servir, d'avancer, de progresser. Ça met du feu, du zèle dans mon cœur. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.